J'évoquais évidemment une autre périodisation que celle au pluriel qui a été évoquée ce matin, parce qu'en fait, je pense qu'il faudrait partir de deux processus majeurs qui sont ceux de l'urbanisation et de l'industrialisation, qui vont modifier le sentiment de la nature. Et du coup, tout le monde, qu'on soit ouvrier du bâtiment, ou chez Renault, ou artiste, ou homme politique, ou femme politique, à partir de ces deux énormes bouleversements du mode de vie et de la nature et du rapport à la nature, eh bien, le sentiment de la nature se modifie. Et donc, si tout d'un coup, on a l'idée de créer des parcs urbains, c'est vraisemblablement parce qu'on a une espèce de manque, je dis manque, mais on pourrait dire aussi de nostalgie, de la perte de quelque chose qui était le village, la campagne, la nature, la forêt, etc. Et donc, c'est tout à fait intéressant de voir que Central Park, dont le lauréat était Downing, qui a laissé sa place ensuite, comme ça a été dit, à Olmsted, Downing est quand même le fondateur, je crois, de tout un mouvement passionnant de création de la forêt urbaine. C'est lui le premier, en 1847, qui dit qu'il faut mettre on mettait dans le village une place de village, dans les quartiers urbains, il faut mettre une forêt urbaine. Et chaque maison, du coup, qui se trouve aux alentours de cette forêt, sont comme autant de clairières. Alors je pense que ça, c'est tout à fait, évidemment, important, et ça va impulser tout ce que Thoreau va expliquer, tout ce que Emerson, avant lui, avait relaté, et tout ce courant avec John Muir, avec John Burroughs, tous ces gens-là, c'est le 19e siècle. Et ça va donner naissance à l'écologie humaine de Robert Park, qu'à tort en français on appelle l'écologie urbaine, ce qui est complètement débile, ils ne sont jamais utilisé ce terme, qui n'arrive que bien bien plus tardivement, et puis tout le mouvement de Murray Bookchin, de l'écologie sociale, qui met dans l'écologie sociale l'activisme, en jouant sur les mots de artiste et d'activiste. L'activiste, c'est quelque chose qui, déjà dans les années 45-46, est mentionné aux États-Unis. Donc, mais je pense que ça n'a aucune importance, cette chronologie, hein, parce qu'on pourrait toujours pinailler. Je ne pense pas du tout, moi, que ce soit le printemps silencieux qui déclenche quelque chose. Mais après tout, pourquoi pas ? On peut considérer que c'est le point de départ de quelque chose. Je pense que dans le contexte de l'époque, c'est plutôt ce livre-là est plutôt le point d'arrivée de quelque chose. Mais bon, c'est un autre débat inutile à avoir ici. C'est pareil pour Dallas. C'est au même moment où Ivan Illich est contacté par un groupe d'activistes de Dallas pour demander quelle est la place de l'eau dans la ville minérale. Et ça va donner ce si beau livre, H2O, ou les eaux de l'oubli, qui est un petit bijou d'Ivan Illich, où il essaye d'expliquer justement ce que c'est que ce rapport à l'eau. Mais ce que je vais dire très, très, très brièvement, un peu à la suite du reste de Manola, c'est que je suis tout à fait d'accord avec elle, mais ça c'est à Jérôme de justifier le titre de son séminaire, qui n'est absolument pas le mien. Je me bats depuis des années contre ces appellations débiles, et je pense qu'un intellectuel qui cède a tort. Moi, partout, je ne dis plus aménagement, je dis ménagement, je ne dis plus jamais développement durable, et dans toutes les commissions où je suis, je râle contre ça, parce que précisément, et ça c'est la phrase d'André Breton, lorsqu'il avait fait sa lettre sur le dégagement, lettre de 1948, à la demande de Sartre, il explique que l'artiste et l'intellectuel n'a qu'une mission, c'est d'être le gardien du vocabulaire. Et donc, c'est notre boulot à nous. Donc si on commence par céder et qu'on dit HQE, espace public, partenariat privé-public, enfin, synergie, tous ces mots toxiques, pour moi, on a perdu. Enfin, alors après, on dit, oui, mais c'est pas grave, c'est des mots de l'époque, il faut les utiliser. Non. Non, non, moi je suis là pour, je suis très ferme là-dessus. Je suis le conseiller, je suis le président du conseil scientifique du Learning Center sur la ville durable. Je mets 12 000 guillemets, et à chaque fois que je commence à l'exposer à Dunkerque, je commence à expliquer que cette appellation n'est pas de moi, que je la rejette, que je suis totalement contre, et que j'en propose d'autres. Et je parle évidemment à ce moment-là d'écologie. Le mot écologie est tellement beau. Et le mot écologie, c'est précisément le processuel. C'est l'interrelation. Donc il n'y a pas à ajouter, à chaque fois, dire, alors l'écologie, c'est l'environnement plus aussi. Non, non. L'écologie, c'est une démarche intellectuelle et artistique qui vise justement en permanence à saisir les processus, les passages, les tensions, les discontinuités, les oppositions temporelles, hein, ou rythmiques, comme dirait Christ. Donc pour moi, ça, c'est un point essentiel. Et je crois que l'urbanisation et l'industrialisation, c'est-à-dire l'entrée de la machine et ensuite du numérique, modifient une chose essentielle dans le déroulé que Christ a mentionné. Et là-dessus, je la questionnerai volontiers, quand elle essayait de nous dire, elle voulait qu'on réponde à la question, c'est quoi qui fait que l'art est durable, ou du moins que l'art ancestral nous parle encore. Bon, je pense que c'est pas sûr qu'il nous parle encore. Je suis même assez persuadé que nous vivons en ce moment une désymbolisation. Et cette désymbolisation est quelque chose qui empêche le rassemblement. Parce que l'urbanisation planétaire et l'industrialisation planétaire provoquent deux phénomènes massifs et nouveaux qui sont l'enfermement, c'est un point à mon avis décisif, et la séparation. Et donc, tout d'un coup, l'écologie devient politique parce qu'elle s'oppose à l'enfermement du grand ensemble, du centre commercial, de la Getty, de Community, du gratte-ciel, etc. Et évidemment, aux formes de séparation territoriale, virtuelle ou réelle, qu'on peut tous constater. Donc je crois que là, il y a vraiment une dimension fondamentalement politique qu'il nous faut évidemment ressaisir. Et puis, je suis beaucoup moins optimiste, le mot ne me plaît pas, mais que Frédéric et Chris. Parce que ça ne suffit pas de décrire les catastrophes qui abondent sans mentionner l'écocide. Le poète Michel Deguy, qui invente cette expression, a raison. Il a cette très belle formule que je vous propose avant de déjeuner. Ça vous coupe pas l'appétit du reste. C'est « Ce qui finit ne fait que commencer ». Et là, je pense que c'est vrai. « Ce qui finit ne fait que commencer ». Et donc, je pense que la situation est excessivement grave et on a trop tendance à dire « Ah bah tiens, les artistes vont nous éveiller, nous faire prendre conscience de ceci, etc. » Je n'en suis pas si sûr. Je pense que les enjeux, les défis... Du reste, j'avais envie, moi, de poser deux questions pour ce séminaire, c'est-à-dire... l'art au défi de l'écologie, c'était ce que j'avais suggéré comme titre, mais en tête j'avais l'autre, l'inverse, c'est-à-dire l'écologie au défi de l'art. C'est encore une autre question.